tous les lundis.
Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap, Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Monceau avec autour du micro Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafond. Et cette semaine, il n'y a que 5 nouveautés sur les écrans Monceau. C'est étonnant, ça faisait très très longtemps qu'on n'en avait pas vu aussi peu. D'habitude, c'est 9-10 et là, c'est 5. Mais il y a du lourd. The Batman, Belfast, Robuste, Rien à foutre. Et Viens, je t'emmène. Pour ce qui est de la programmation musicale, eh bien, on va aller chercher des titres un petit peu partout. Et notamment, on commence par un titre que l'on entend dans Belfast, qu'on entendait aussi sur la bande-annonce de Belfast. C'est le groupe Love Affair. Et c'est Every Lasting Love sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. C'est tout de suite. Hop, c'est parti. Love Affair, Every Lasting Love, un titre que l'on entend dans une scène du film Belfast. Ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, d'ailleurs, hein, ce titre.
Enfin, c'est pas l'original qu'on entend, c'est les acteurs qui chantent, en fait.
Oui. Hein. Oui. Ah bon, d'accord.
Oui, oui.
C'est un titre qui pourrait passer dans ton émission, ça, Pierre, non?
Ouais, 1968, voilà. J'ai vérifié titre. Oui.
Alors, rappelons que l'émission de Pierre, c'est le samedi de
16h à 17h.
Voilà, sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Bon, Belfast, on en parle 5-6 minutes. On commence notre semaine cinématographique avec The Batman, un film proposée par le méga CGR, le Pâté Quinconce et le Colisée, avec au Colisée et au Pâté Quinconce des séances en version originale. Attention, le film dure 2h57. Il est réalisé par Matt Reeves, réalisateur, producteur américain né en 66. Son premier long métrage, ses premiers longs métrages me paraissent inédits en salle en France. C'était en 93 un film qui s'appelait Future Shock. 96, Le Porteur de Cercueil, avec Gwyneth Paltrow et David Schwimmer, pourtant. Hein. Il a réalisé également de nombreux épisodes de séries. Et puis, moi, je l'ai vu en 2008, son film Cloverfield. C'était un film qui avait marqué les esprits à ce moment-là. 2010, Laisse-moi entrer, avec Chloé Grace Moretz et Richard Jenkins. Et puis, bien entendu, en 2014, La Planète des Singes, L'Affrontement. Et en 2017, La Planète des Singes, Suprématie, avec dans les deux cas Andy Serkis, qui jouait le singe César dans le film. Donc, ce film, The Batman, deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la peur chez les criminels, ont mené Bruce Wayne au cœur des ténèbres de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance, Alfred Pennyworth et le lieutenant James Gordon, parmi le réseau corrompu de fonctionnaires, alors donc quelques alliés de confiance, parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de la ville. Le justicier solitaire s'est imposé comme la seule incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens. Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham par une série de machinations sadiques, une piste d'indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde sur une enquête dans la pègre, où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle, alias Catwoman, Oswald Cobblepot, alias le Pingouin, Carmine Falcone, etc., etc. Alors, la revue de presse, comme il se doit, Étienne Sorin dans le Figaro, Matt Reeves propose une version sombre et poisseuse de Batman. Il arrive après le gothique Tim Burton, le navrant Joel Schumacher et l'intouchable Christopher Nolan, mais ne se contente pas de repasser les plats. Caroline Vier dans 20 minutes, Robert Pattinson, oui c'est lui qui joue Batman, surprend par la noirceur de son interprétation dans The Batman. Il est étonnant face à Zoé Kravitz dans ce néo-polar qui renouvelle la franchise. Antoine Desrues, écran large, The Batman est bien l'œuvre bouleversante que l'on n'espérait plus. Sombre, décadent et d'un nihilisme total, le film de Matt Reeves déploie une relecture désespérée d'un chevalier noir plus politique que jamais. Son casting parfait et sa mise en scène classieuse fournissent l'écrin impérial d'un blockbuster immanquable. Fabrice Leclerc dans Paris Match, réinventer une icône déjà magnifiée par Tim Burton ou Christopher Nolan, ne voilà pas la moindre des qualités de Matt Reeves. Son Batman est poisseux et sombre dans un film dantesque qui dissèque les travers d'un super-héros dépressif campé par un Pattinson minimaliste. Jean-Marc Lalanne, Les Incorruptibles, d'une durée de 2h55, le film a quelque chose d'éprouvant. On en sort un peu fourbu, assommé par ses intrigues à rallonge, ses combats délayés, ce tunnel de nuit qui semble avoir avalé le jour. Adrien Gombeau, Les Échos, la chauve-souris de Gotham City est de retour sous les traits de Robert Pattinson. Matt Reeves signe une fresque à la plastique monochrome impressionnante sur un scénario exagérément étiré. West France, visuellement, The Batman est un tour de force, jouant parfaitement de la métaphore de l'ombre et de la lumière qui agite le héros. C'est moins convaincant du côté du scénario. Jacques Mandelbaum dans Le Monde, le tout émaillé du sempiternel roman des origines batmaniennes et doté de scènes d'action de bonne facture. Dans cette partition, sans grande surprise, Robert Pattinson cessait à trouver sa signature. The Batman, proposé par le Pâté Quinconce, le Colisée, le méga CGR, avec chaque fois au Pâté Quinconce et au Colisée, au moins une séance en version originale par jour. C'est The Batman, c'est le récit de la longue, très longue, trop longue pour mon goût, traque menée par le justicier chauve-souris contre un serial killer qui s'en prend aux élites corrompues de Gotham City. Ces élites corrompues, c'est le maire, le chef de la police, le procureur. Il est aidé par l'intègre commissaire Gordon pour cela. Visuellement, c'est somptueux, comme tout le monde l'a remarqué. On pense beaucoup à Seven, oui, le film de Seven, et pas que visuellement d'ailleurs, scénaristiquement, par exemple, les premiers meurtres rappellent le film de David Fincher dans leur mise en scène, dans leur sadisme, dans ces indices semés pour titiller l'esprit de Batman. Gotham City est en permanence plongé dans une atmosphère nocturne et pluvieuse. Le film est d'ailleurs plus proche d'un polar classique à enquête, hein, très sombre, oui, bien sûr, que d'un film de super-héros à la Marvel. Mais il faut rappeler que Batman n'a pas de super-pouvoir. Hein, il n'est pas comme Spider-Man ou comme tant d'autres. Batman n'a pas de super-pouvoir. Donc, un film qui est une enquête avec au centre donc le personnage de Batman, tourmenté, traumatisé par son passé et qui d'ailleurs va en découvrir certains aspects qu'il ignorait. Robert Pattinson la joue monolithique, aussi expressif qu'un bout de bois, mais difficile de faire autrement vu qu'il est quand même le plus souvent masqué. Alors, on pourrait aussi trouver superflu son histoire d'amour avec Catwoman, personnage pourtant par ailleurs réussi, mais bon, moi, les histoires d'amour dans ce genre de film, ça m'intéresse moins. Je dirais que le film est moins réussi que The Joker, parce que moins intense, plus délayé. Le film est cependant sans couder au-dessus des Marveleries que j'ai d'ailleurs renoncé à aller voir en salle. C'est un vrai spectacle, un véritable tour de force visuel, réalisé avec un grand savoir-faire. Il n'y a pas de surenchère dans les effets spéciaux ou dans le scénario. Il y a même quelques morceaux de bravoure côté action, dont une spectaculaire poursuite automobile. Et puis, le méchant est parfaitement réussi. C'est le délirant et malsain Paul Dano, qui est un mélange de justicier à sa façon et de paranoïaque complotiste. Et on doit dire qu'il vole complètement la vedette à Pattinson lors de leur scène commune. Dommage donc que ce soit beaucoup trop long. Hein, par exemple, Joker n'en faisait que 2 heures et c'était bien suffisant. On aurait pu avantageusement, à mon avis, amputer le film d'une heure en resserrant l'intrigue, par exemple en supprimant simplement un des meurtres de notables, tout simplement. N'empêche que c'est quand même à voir, surtout sur grand écran, en salle, hein, bien sûr, parce que Reeves réussit à renouveler l'approche du personnage tout en y restant fidèle. Donc, moi, c'est quand même un film que je recommande, et pas uniquement aux fans de Batman. Je vous dis, ça peut être passé comme un polar, un vrai polar noir. Je vous dis à la Seven.
À 3 heures, quand même.
2h55, ouais. Enfin, bon, il y a 10 minutes à peu près de générique, mais ça dure quand même très longtemps, c'est ouais. Sûr. Mais on le sent quand même que ça, c'est long, hein. Bien, voilà, donc The Batman, Belfast, cette fois-ci, eh bien, on est juste au Pathé Quinconce. The Batman n'est sorti que dans ce cinéma, le Pathé Quinconce.
Belfast.
J'ai dit quoi ?
The Batman.
Ah, Belfast, oui, Belfast, au Pathé Quinconce, uniquement avec au moins une ou deux séances en version originale par jour. C'est un film d'une durée d'1h39, c'est de Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, on a vu, et c'est encore à l'affiche récemment, Mort sur le Nil, mais c'est logique, le film Mort sur le Nil devait sortir avant le confinement, il a été repoussé, et Belfast lui a été tourné entre les différentes phases de confinement. Alors Kenneth Branagh, réalisateur, scénariste, acteur, producteur, britannique né en 60, on l'a découvert avec Henri V en 91. Alors, il a fait beaucoup d'adaptations de Shakespeare, je l'avais dit la dernière fois pour Mort sur le Nil, donc je vais forcément le répéter. Mais il a aussi fait des polars, par exemple en 2002, Dead Again, avec lui-même, Emma Thompson et Andy Garcia. 93, là, c'était pas un polar, c'est un film, une chronique. Les Amis de Peter, avec Emma Thompson et Stephen Fry. 93, on revient à Shakespeare, Beaucoup de bruit pour rien, excellent film, Beaucoup de bruit pour rien, avec lui-même, Keanu Reeves, Emma Thompson. 95, Frankenstein, avec Kenneth Branagh, bien sûr, et Robert De Niro. 95, Au beau milieu de l'hiver. 97, Hamlet, donc toujours du Shakespeare. 2001, Peine d'amour perdue, et on continue. 2006, La flûte enchantée, alors ça, c'est pas Shakespeare. 2008, le remake du Limier, de Mankiewicz. Là, c'était avec Jude Law et Michael Caine. Et puis, en 2011, Thor. Ah oui, Thor, le super-héros, Chris Hemsworth. 2014, The Ryan Initiative, avec Chris Pine, Kevin Costner. 2015, Cendrillon, avec Lily James. Elle était mignonne, Lily James, dans Cendrillon. 2017, Le Crime de l'Orient Express, où il incarne pour la première fois Hercule Poirot, avec Johnny Depp, Michelle Pfeiffer. 2019, All is True. 2020, Artemis Fowl, mais ça s'est sorti uniquement sur Disney+, donc pas en salle. Et donc, je répète, en 2022, Mort sur le Nil. Alors, Belfast, eh bien, on est en 1969, l'été 69. Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est et à quel monde il appartient, celui de la classe ouvrière des quartiers nord de Belfast, où il vit heureux, choyé et en sécurité. Mais, vers la fin des années 60, alors que le premier homme pose le pied sur la lune et que la chaleur du mois d'août se fait encore sentir, les rêves d'enfant de Buddy virent au cauchemar. La grogne sociale latente se transforme soudain en violence dans les rues du quartier. Buddy découvre le chaos et l'hystérie, un nouveau paysage urbain fait de barrières et de contrôles et peuplé de bons et de méchants. Très partagé, la revue de presse. Le Parisien, ce grand film en noir et blanc, bardé de nominations pour les prochains Oscars, Kenneth Branagh l'a voulu aussi irlandais que possible. Tout respire Belfast dans ce film, jusqu'à la musique. Branagh y tenait, signé du vétéran Van Morrison, natif et figure de la ville, dont la voix extraordinaire et inimitable rythme le récit. On vous passera un ou deux titres de Van Morrison au cours de l'émission. Emmanuel Spalacenda dans le cinématiseur, Belfast vibre d'un plaisir évident de mise en scène. Julien Marcinon, Télé 7 jours. Le cinéaste trouve dans le jeune et craquant Jude Hill un alter ego absolument fabuleux. Nostalgique et pétillante, sa chronique intime à la recherche du temps perdu est une très jolie surprise. Thierry Chasse dans West France, un film non exempt de maladresse, mais aussi attachant que touchant. Céline Roudin dans La Croix, habituée des super productions hollywoodiennes, l'acteur et réalisateur britannique signe un film plus personnel sur son enfance à Belfast. Cette chronique très léchée de la violence du conflit nord-irlandais vue à travers l'imaginaire d'un enfant ne retrouve pas le charme de ses premières réalisations. Chalère, Nicolas Chalère dans L'Obs, filmé de son point de vue de gamin dans un noir et blanc somptueux qui se teinte de couleurs lorsqu'il se rend au cinéma ou au théâtre. La chronique pâtit d'un montage vibrionnant et d'incessants effets de manche. S'en dégage néanmoins une chaleur, de la nostalgie et un amour pour les personnages. Léo Sosanto dans Libération, si la sincérité de Branagh est indéniable, elle recouvre tout début d'amertume sous des montagnes de sucre. Buddy est mignon, sa famille est mignonne, et tout dépendra du degré de tolérance au glucose du spectateur. Oui, théorie Breton, Les Irréductibles, Belfast apparaît plus garni d'effets de formatage que n'importe quel produit de grande exploitation. Il s'agit d'un formatage de notre rayon, celui du cinéma d'auteur de luxe. Et enfin, Gaël Golen en première, Belfast est un film safe et sans grande substance, un cocon rassurant qui peut réchauffer ou irriter selon votre humeur. Et oui, donc, Belfast, proposé uniquement par Le Pâté Quinconce, avec au moins une ou deux versions originales par journée. Buddy est un jeune garçon, donc insouciant. Il vit à Belfast, dans un quartier populaire, et au sein d'une famille unie et aimante, quand surviennent donc les émeutes de 1969 entre communautés catholiques et protestantes, lançant une guerre civile sanglante qui va durer bien longtemps, hein, à peu près une trentaine d'années. Alors son monde est forcément bouleversé, d'autant que, étant de religion protestante dans un quartier catholique, son père subit la pression des activistes protestants pour s'engager à leur côté, lui qui travaille la plupart du temps en Angleterre pour subvenir aux besoins de sa famille, une famille qui d'ailleurs ne roule pas sur l'or. L'originalité du film est qu'il traite des événements à la hauteur du regard de cet enfant, qui ne comprend pas bien les enjeux de la situation, mais dont le quotidien est forcément impacté. Pourtant, Buddy vit comme tous les petits garçons de son âge, entre l'amour de ses parents et grands-parents, et celui qu'il éprouve pour sa jolie camarade de classe. Un film empreint d'une douce mélancolie, accentuée par le choix du noir et blanc et l'évocation de ce qui faisait rêver cet enfant. Des séries télévisées comme Star Trek, par exemple, ou des films américains de l'époque, Chitty Chitty Bang Bang, ou Le train s'y fera trois fois, par exemple. Voilà, donc c'est un film, bien entendu, au fort relent autobiographique, puisque Buddy, c'est, on peut le dire, Kenneth Branagh, qui a vécu cette situation au même âge et qui évoque donc ici la vie quotidienne de sa famille à cette époque et le choix final fait par ses parents pour protéger toute la famille, de quitter Belfast pour l'Angleterre. Et donc, le film parle aussi sur la fin de ce déracinement que vit cette famille. Donc, c'est un film où la petite histoire rejoint la grande. Alors, personnellement, moi, je ne reprocherai pas au réalisateur de laisser en arrière-plan les événements et la politique. Son choix, c'est de privilégier le regard de Buddy et la chronique familiale. C'est pas de se lancer dans une dénonciation de tel ou tel camp ou des exactions commises. Non, c'est un récit attachant, avec des acteurs impeccables, une touche d'humour à travers les réflexions du grand-père, mais c'est pas non plus un film absolument transcendant qui doit soulever les foules. Alors, Pierre.
Je suis mitigé aussi en ce qui concerne ce film que j'ai vu hier. Alors, nous sommes en août 1969, tu l'as dit, le noir et blanc est omniprésent, comme pour nous rappeler l'époque où se déroule le film. C'est le moment du début des violences entre catholiques et protestants en Irlande du Nord, à Belfast plus précisément. Ce film est en grande partie autobiographique, à en croire Kenneth Branagh, le réalisateur qui déclare dans une interview « J'ai fait ce film pour dire qui je suis et j'ai écrit depuis mon plexus ». Lui qui a réalisé Thor en 2011 n'hésite pas à faire un clin d'œil à ce film lorsqu'il montre dans une scène le petit garçon lisant une BD de Thor, justement. Le petit garçon, c'est Buddy, sur lequel est focalisé le scénario, peut-être un peu trop à mon goût et pas assez sur les affrontements et les violences, diront aussi certains spectateurs. Mais là, le cinéma offre comme un abri contre le conflit religieux et laisse place à une certaine nostalgie d'une famille unie et aimante, oui, je te rappelle, mais on s'est pas concerté, qui fuira la guerre civile pour la ville de Reading au sud de l'Angleterre. Alors, mitigé donc, mais soulignons quand même l'excellente BO, la bande originale, ponctuée de chansons de Van Morrison, originaire lui aussi de Belfast d'ailleurs, et ex-chanteur des M dans les années 60. Sans oublier le tube qu'on a entendu au début de cette émission, Everlasting Love, sorti en 68. Dernière chose aussi que j'ai remarqué, la beauté de Caitriona Balfi, ex-mannequin quand même, est déjà vue dans Le Mans 66.
Ah bon?
Oui.
Je m'en souviens pas.
Qui joue le rôle de la mère de Buddy. Donc, voilà, c'est tout.
Voilà. Bien. Donc c'est Belfast. Eh bien, Van Morrison, c'est pas pour tout de suite. Là, c'est Nirvana, oui, parce que dans le Batman, on entend à deux reprises ce titre de Nirvana, Something in the Way, et c'est sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Nirvana, Something in the Way, un titre que l'on entend à deux reprises dans The Batman. Robuste, c'est un film réalisé par Constance Meyer. Constance Meyer est une réalisatrice, scénariste et productrice française. Elle avait à son actif jusqu'à maintenant des courts-métrages, c'est son premier long-métrage. Il est proposé uniquement par les cinéastes avec deux séances par jour. C'est un film avec Gérard Depardieu et Déborah Lukumuena. Ça dure 1h35. Lorsque son bras droit et seul compagnon doit s'absenter pendant plusieurs semaines, Georges, star de cinéma vieillissante, se voit attribuer une remplaçante, Aïssa. Entre l'acteur désabusé et la jeune agente de sécurité, un lien unique va se nouer. Le Parisien, entre eux, un mélange de complicité, de distance, d'affrontement physique, joué avec une grâce qui éblouit de bout en bout. Déborah Lukumuena, 27 ans, révélée par Divine, pour lequel la jeune femme avait obtenu le César du second rôle féminin en 2017, s'y affirme avec une évidence lumineuse. Olivier Delcroix, Le Figaro, Constance Meyer capte la solitude d'un comédien qui se détache lentement du monde. Aïssa lui tend la main et les deux finissent par former un duo surprenant. Cette amitié singulière passe par une main posée sur l'épaule et laisse espérer le retour furtif à une forme de joie. Olivier de Bruyne dans Les Échos, Constance Meyer met en scène la rencontre d'une jeune agente de sécurité et d'un vieil acteur désabusé. Un rôle en or pour Gérard Depardieu qui s'amuse avec son image dans cette fiction étonnante. Gilles Kerdreau dans West France, un premier film un peu austère, mais la confrontation des deux acteurs et le choc des deux corps deviennent captivants. Sophie Grassin dans L'Obs, Depardieu se laisse diriger, Déborah Lukumuena, talent explosif, ne se fait pas bouffer et confirme tout son potentiel dans ce film d'amour doublé d'un documentaire sur l'art et la manière d'apprivoiser l'animal. Cinématiseur Perrine Kenson, jamais le film ne parvient réellement à décoller, manquant d'un grain de folie, d'un léger déraillement pour faire vibrer complètement la corde du sensible, mais robuste et toujours tendre. C'est assez rare pour être souligné. Jean-Marie Samoki dans Cahiers du cinéma, hélas, en se contentant souvent de filmer alternativement Depardieu et Lukumuena, elle les isole l'un de l'autre. Quand plus rarement le montage devient circulation et flux, les deux corps apparaissent comme les parties émouvantes d'un même personnage, offrant pour un temps à Depardieu un devenir qui ne serait ni la tristesse ni l'autarcie. Maroussia Dubreuil dans Le Monde, sur le terrain de la comédie, robuste opte surtout pour une forme de condescendance à l'égard de la cour de la star, réalisateur, assistant, fan. Oui, je comprends pas trop cette dernière critique, mais bon. Robuste est proposé par les cinéastes avec deux séances par jour. Donc, Robuste, c'est la rencontre entre Georges. Georges, un acteur vieillissant et solitaire dont on ne peut s'empêcher de penser qu'il ressemble à ce qu'est Depardieu dans la réalité. Un type las, désabusé, mauvais coucheur, misanthrope. Et puis, la rencontre donc de Georges et de Aïssa. Aïssa, c'est une jeune femme, agent de sécurité qui pratique la lutte en compétition et assure auprès de Georges l'intérim comme assistante et garde du corps. Rien ne prédisposait à ce que ces deux-là se rencontrent et pourtant, eh bien, ils vont s'apprivoiser, apprendre à se connaître et lier une relation d'amitié. Voilà, Aïssa devenant en quelque sorte la protectrice de Georges. Un film tout à fait anecdotique, hein, franchement, sans relief particulier, qui vaut essentiellement par son duo d'acteurs, Depardieu tel qu'en lui-même et comme on l'imagine dans la vraie vie, un type massif mais finalement vulnérable. Et puis Déborah Lukumuena, jeune femme fragile elle aussi, malgré son apparence au physique corpulent. Un film fait essentiellement de leur face-à-face et des rapports qu'ils vont peu à peu nouer. Rien de vraiment remarquable, mais pas non plus un film à éviter, hein, surtout si on aime Depardieu. Depuis 3 semaines, on a droit à un film de Depardieu et dans des registres quand même très divers. Il y a eu Maison de retraite, il y a eu la semaine dernière Maigret, et puis cette semaine, donc, Robuste. Donc, Depardieu doit être en bonne santé parce qu'il tourne quand même beaucoup, hein, avec les apparences.
Bah, je pense aller le voir, oui.
Voilà, Robuste, bon, c'est au cinéaste. Toujours au cinéaste, Rien à foutre, c'est le titre du film réalisé par un duo, Emmanuel Mar et Julie Lecoustre, tous les deux réalisateurs scénaristes, Emmanuel Mar étant en plus directeur de la photo. Ils ont alors actif déjà des courts-métrages et des moyens-métrages, c'est leur premier long-métrage, c'est là aussi proposé par les cinéastes avec 2 séances par jour, ça dure 1h55, en fait c'est 1h52 précisément. Cassandre, c'est Adèle Exarchopoulos, 26 ans, est hôtesse de l'air, dans une compagnie low cost, vivant au jour le jour, elle enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain, fidèle à son pseudo Tinder, Carpe Diem. Une existence sans attache, en forme de fuite en avant, qui la comble en apparence. Alors que la pression de sa compagnie redouble, Cassandre finit par perdre pied. Saura-t-elle affronter les douleurs enfuies et revenir vers ceux qu'elle a laissés au sol? Elle, le journal Elle, Françoise Delbecq, parle d'une magnifique ode à l'ultra-moderne solitude. Le Parisien, ce n'est pas seulement Cassandre qu'Adèle Exarchopoulos incarne, mais toute une génération est prise de liberté tout en fuyant l'intime. À 28 ans, ce rôle dans un film pas forcément grand public, mais qui parlera de nombreux jeunes, fera date pour la comédienne lancée par la vie d'Adèle. Camille Nevers dans Libération, le premier film d'Emmanuel Mar et Julie Lecoustre, exploration intime et politique du quotidien d'une hôtesse de l'air, fascine par sa minutie. Vincent Ostria, L'Humanité, avec Rien à foutre, Emmanuel Mar et Julie Lecoustre, inaugure un nouveau type de fiction sociale, minimisant le drame au profit de la dimension documentaire. Jean-Claude Raspienjas dans La Croix, ce film décapant est le parfait contrepoint aux exaspérantes publicités pour ces compagnies qui dégoulinent d'images trompeuses. La réalité de l'hyperconcurrence dans les airs est une saumâtre exploitation. Les hôtesses de l'air ne sont pas à la fête. Thierry Chaise en première depuis des coulisses pas très réjouissantes de l'aviation à Bakou, qui n'ont jamais été filmées aussi crûment. Le duo dresse un portrait générationnel drôle et mélancolique, construit sur une réalisation à la frontière du documentaire, beaucoup d'improvisation et d'acteurs non professionnels. Olivier de Bruyne dans Marianne, avec humour et une apparente impassibilité, les cinéastes mettent en scène leurs personnages au travail, puis, dans une dernière partie plus intimiste, donne à voir avec sensibilité ses blessures secrètes et sa révolte contre les assignations qu'il a tues à petit feu. Malgré ses longueurs et préciosités, un film singulier sur notre monde et comment il va mal. Étienne Sorin, Le Figaro, cette première partie de Rien à foutre ressemble à un documentaire sur une jeunesse ubérisée. Ubérisée, la seconde vire au mélo, quand Cassandre retourne à sa famille endeuillée par la mort de sa mère. Le tout est un long film dont on a un peu rien à faire. On reste poli. Ben oui, je reviendrai un petit peu cette dernière critique d'Étienne Sorin, moi ben je dois dire.
C'est comme le film, rien
ben
à foutre.
Ben oui, Cassandre, donc c'est l'hôtesse de l'air. Elle est hôtesse de l'air pour une compagnie low cost. Donc c'est bien un film en deux parties. L'une intéressante, l'autre beaucoup moins, pour ne pas dire, comme l'a dit Étienne Sorin, sans intérêt. La première partie, elle est quasi documentaire. Elle nous montre le quotidien de Cassandre. Hôtesse de l'air, donc, dont la vie se résume à des vols quotidiens et un retour à sa base, à Tenerife, pour ses jours de repos dans un appartement en colocation. Une vie monotone, en pilotage automatique, sans attrait particulier, qui semble d'ailleurs lui convenir, malgré ses contraintes, comme la pression de sa hiérarchie et les objectifs toujours plus importants à atteindre. Elle ne se plaint pas. Elle semble même apprécier cette vie sans attache, avec ses rencontres sans lendemain, ses relations superficielles avec ses colocs. Mais peut-être cela cache-t-il quelques traumatismes enfouis. Eh bien, justement, c'est la seconde partie. Et cette seconde partie, c'est le retour dans sa famille pour quelques jours où elle retrouve sa sœur et son père et essaie de comprendre avec eux les circonstances de la mort de sa mère dans un accident de voiture. Et elle essaie d'affronter cela. Voilà. Un film qui se caractérise par une mise en scène faite de longues séquences qui paraissent souvent improvisées, qui s'étirent, surtout dans cette deuxième partie sur le deuil. Une fois de plus, c'est un de ces films français d'auteur qui donne l'impression de vide, avec un enjeu, un sujet ténu, sans originalité particulière, si ce n'est cette étude documentée sur le métier d'hôtesse de l'air. Sinon, c'est juste le portrait d'une jeune femme d'aujourd'hui. Heureusement, Adèle Exarchopoulos est là pour incarner cette jeune femme, ses apparences et ce qu'il y a derrière. Mais que c'est long, 1h52, mon Dieu, misère. Rien à foutre, ça s'appelle, voilà.
Non. C'est pas rien à foutre.
Si, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors, on a parlé de Van Morrison. Et Van Morrison, eh bien, on l'entend à plusieurs reprises dans le film Belfast, comme on vous l'a déjà dit. Eh bien, on va écouter un des titres joué. Je crois qu'il y a 6 ou 7 de Van Morrison dans le film. Eh bien, c'est Bright Side of the Road sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Je ne me trompe pas, c'est bien celui-là. Non, ce n'est pas celui-là. C'est... Ah merde, je l'ai pas appris. Mais bon, c'est alors vous allez avoir. Je vais vous passer Down to Joy. Bah, et voilà.
C'est quand même Van Morrison.
Oui, c'est quand même Van Morrison.
Felt like I was coming down to joy. What did I see? What did I hear? When I was coming down, had a brand new story. But I was coming down to joy. Felt so good, gratitude. When I was coming down, something quite profound. Then I cried out loud. I had a brand new story. I was coming down to joy. She was standing there before me when I was coming down. Down, down.
Van Morrison, Down to Joy, un des titres de Van Morrison qu'on entend dans le film Belfast, et donc Bright Side of the Road, ça sera juste après. Allez, viens, je t'emmène, c'est notre dernier film à l'affiche dans les nouveautés sur les écrans mensuels cette semaine. C'est un film de Alain Guiraudy, un acteur, réalisateur, scénariste français en 64. Il a fait des courts-métrages et puis des longs. Alors donc, on va citer en 2001 Du soleil pour les gueux et en 2001 aussi Ce vieux rêve qui bouge. 2003, Pas de repos pour les braves. 2004, Voici venu le temps. 2009, Le roi de l'évasion. 2012, c'est le film qui l'a vraiment fait connaître, L'inconnu du lac, et c'est le film qui a aussi révélé Pierre de la Donchamp. 2016, Rester vertical avec Daniel Bonnard et India Air. Voilà, le film vient, je t'emmène, 1h40, proposé avec 2 séances par jour au cinéaste à Clermont-Ferrand. Médéric tombe amoureux d'Isadora, une prostituée de 50 ans, mais elle est mariée. Alors que le centre-ville est le théâtre d'une attaque terroriste, Selim, un jeune sans-abri, se réfugie dans l'immeuble de Médéric, provoquant une paranoïa collective. Tout se complique dans la vie de Médéric, tiraillé entre son empathie pour Selim et son désir de vivre une liaison avec Isadora. Caroline Vier dans 20 minutes, Alain Guiraudy livre un film léger comme un vaudeville sur fond d'attentats, de complotisme et d'amour fou. Le journal du dimanche, fort de son intrigue à la fois sociétale, réaliste et vaudevillesque en diable, Alain Guiraudy s'en donne à cœur joie s'il se joue des clichés et des amalgames qui envahissent les actualités. C'est ici pour mieux les tordre. Jacques Mandelbaum dans Le Monde, un vaudeville encore, hein, tout le monde parle de vaudeville, bon, d'accord. Un vaudeville dérangeant qui explore les névroses françaises pour en déjouer les clichés. Libération Luc Chessel avec ce film de voisinage énervé. Alain Guiraudy se renouvelle encore dans une surprenante comédie sur fond de panique sociale, de terrorisme et de polysexualité. Ça, c'était dans Libération, donc. Céline Roudin dans La Croix, mêlant désir et paranoïa, Alain Guiraudy trousse un vaudeville, et oui, sur fond d'attentats à Clermont-Ferrand, et dresse le portrait de toutes les névroses de notre pays sans se départir de son style joyeux et provocateur. Paris Match, Yannick Velly, cette comédie libertaire qui embrasse un peu trop de personnages et de situations, Viens, je t'emmène, réjoui par son ton enlevé, son anti-héros faible et attachant, sa prostituée nympho qui fait de sa sexualité un acte social. Thierry Chaise dans West France, en dépit du génial duo Jean-Charles Cliché et Noémie Wolski, le mélange des genres surréalistes trouve ici ses limites par son incapacité à dépasser les archétypes. Étienne Sorin, Le Figaro, sous cette trame de vaudeville. Bon, alors ça, c'est dans le mot vaudeville et dans le dossier de presse. Et là, ils ne se sont pas tous fatigués. Ils ont tous été chercher ce mot-là. Il n'y a aucun problème. Cette trame de vaudeville, Alain Guiraudy greffe une histoire de sans-abri soupçonné d'être l'auteur d'un attentat terroriste. On ne voit pas bien où il veut en venir. On voit surtout que ça ne mène pas très loin. Et bien, une fois de plus, je suis d'accord avec Étienne Sorin. Voilà. Donc, c'est un film qui a laissé quand même plutôt circonspect. Ce n'est pas une comédie pour moi, hein. Ou alors si ça en est une, moi j'ai pas trouvé ça vraiment drôle.
Dramatique.
Ce n'est pas non plus un pur drame, oui. Donc c'est un film un peu hybride, on va dire une comédie dramatique, oui. Voilà, c'est comme ça qu'on dit, sous forme d'une chronique chorale sur, peut-être, les peurs actuelles des Français, donc l'immigration, la crainte de l'islamisme, le rôle stressant des chaînes d'infos continues, et j'en passe. Il y a une dizaine de personnages donc qui vont se croiser, se perdre, se recroiser dans un Clermont-Ferrand en proie à un attentat terroriste. Le pivot de l'histoire, c'est Médéric, c'est un brave type, tombé amoureux, il est un peu naïf, tombé amoureux d'une prostituée, elle-même mariée. Et ce brave Médéric recueille, après quelques soupçons et réticences, un jeune maghrébin sans abri dans son immeuble, dont les autres occupants ne voient pas tout cela d'un bon œil, en tous les cas de prime abord. Cette dizaine de personnages donc, vont interagir au gré des circonstances, et donc on suit le film sans ennui ni intérêt, en se demandant où veut bien aller l'auteur avec son film, dont on pourrait dire qu'il est donc une sorte de vaudeville, puisque tout le monde trouve que c'est un vaudeville, puisque c'est le mot qu'il emploie lui-même pour caractériser son œuvre. Bon, c'est un vaudeville triste et mou, voilà, et qui fait partie de cette innombrable cohorte de films dont on aura oublié tout dans 3 mois, y compris même le titre, probablement. Donc, ça s'appelle « Viens, je t'emmène », c'est proposé par les cinéastes. Allez, hop, Van Morrison, à nouveau, « Bright Side of the Road », je vous l'avais promis, le voici tout de suite sur Radio Alpa. We'll be right back.
summer, don't know why. And time simply goes by so fast in the twinkling of an eye. Let's enjoy it while we can.
Let's enjoy it while we can.
Help me share my load.
Help me share my load.
On the dark and lonely street to the bright side.
Van Morrison, Bright Side of the Road, un des titres de Van Morrison qu'on entend dans le film Belfast. Pour être tout à fait complet, cette semaine cinématographique, il y a aussi Tutti al Cinema, festival du film italien proposé par les cinéastes. Il y a donc 7 ou 8 films pour les cinéastes, films italiens. Ça va de La Strada, ça La Strada c'est quand même assez vieux, ça doit des années 50 à peu près, à des films d'ailleurs qui ne sont même pas sortis en France.
J'ai sous les yeux, c'est 54.
Voilà, c'est, à des films qui sont inédits en France, qui ne sont jamais sortis sur les écrans, et puis d'autres qui sont sortis plus ou moins. Donc là, pour connaître les séances, je vous recommande d'aller sur le site des cinéastes, et là vous aurez tout le programme complet avec les différents films qui ont souvent une séance par jour ou une séance tous les 2-3 jours. Voilà, donc il y a des films italiens. Moi, je ne les ai pas vus, à part La Strada, il y a très très longtemps. Je pense que ça a très mal vieilli, La Strada, mais enfin, bon, peut-être, je me trompe. Voilà, donc je ne vais pas me lancer dans les intitulés des films n'ayant pas fait italien deuxième langue. Donc, je ne vais pas me ridiculiser. Voilà, donc, pour ce qui est des films à l'affiche cette semaine, on vous en a parlé. On a encore un petit peu de temps avant de vous annoncer les films à l'affiche la semaine prochaine. Et donc, on va vous passer un petit Michel Berger. Ah. Oui, dans le Robuste, à la fin du film, on entend, sur le générique de fin. Et mais on l'entend également avant, Quelques mots d'amour de Michel Berger. Donc, c'est sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Et je reviens ensuite.
Il manque quelqu'un près de moi. Je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seul parmi tous ces amis et ces filles qui ne veulent que quelques mots d'amour. De mon village capital, où l'air chaud peut être glacial,
revois comme un papillon à une étoile. Quelques mots d'amour. Je t'envoie mes images. Je t'envoie mon décor. Je t'envoie mes sourires les jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. Je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort. Et dans ces boîtes pour danser, les nuits passent inhabitées. J'écoute les battements de mon cœur me répéter. Aucune musique au monde saura remplacer. Quelques mots d'amour. Je t'envoie mes images. Je t'envoie mes sourires les jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. Je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort. De mon village sans à l'heure, les docteurs greffent les cœurs, où des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. Quelques mots d'amour.
Quelques mots d'amour. Michel Berger, c'est un titre qu'on entend sur le générique de fin de Robuste, mais on l'entend aussi chanté par Depardieu et l'actrice, non, le nom m'échappe là d'un seul coup, au cours du film. Alors, les films à l'affiche la semaine prochaine, on commence par les avant-premières. Dimanche, à 13h30 au Méga ou à 18h30 au Pâté, Goliath, un film de Frédéric Tellier avec Gilles Lelouch et Pierre Niney. Ils sont excellents tous les deux, d'ailleurs Pierre Niney dans un rôle de salaud exceptionnel, un lobbyiste. Alors le film, je l'ai vu, c'est un film intéressant, peut-être un peu trop manichéen pour mon goût, un peu trop militant sur la fin, mais enfin passons. C'est donc 13h30 au Méga, 18h30 dimanche pour Goliath. Mardi, on repart cette fois-ci au Pâté. Et mardi, à 20h30, Notre-Dame brûle. Ce film sortira le 16, mais il y a une avant-première dès mardi 8 au Pâté, 20h30. Les autres films à l'affiche la semaine prochaine, à coup sûr, il y aura Murder Party. Un film français de Nicolas Pleskov avec Miu Miu et Mitchell Ispol. Donc Goliath, Kung Fu Zora de Mabrouk El Meshri avec Sabrina Ouazami et Ramzi Bedia. Cinéastes proposeront Petite Nature. Ils proposeront également The Housewife de Yukiko Mishima. Là, tout le monde a compris que c'est un film japonais. Et puis, il y aura aussi cette petite comédie française que j'ai vue qui est assez sympa, Permis de construire, qui est assez drôle, qui se passe en Corse. Voilà, les films à l'affiche la semaine prochaine. Cette semaine, moi, je vous recommande quand même The Batman. Belfast, oui.
Ouais, oui, Belfast oui, quand même, ouais, c'est pas
voilà,
mal. Oui.
Voilà, bien. Eh ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Dans Clap, voilà, c'est parti, le générique.
Au revoir. Thank you.